With TV, you can't even think of something different. With movie,
you can. Sento dentro di me una strana agitazione.
Une petite méditation.
Tu sais le plus par exemple qui est le qui est le bon. Donc pour celui qui est qui.
Super, mais c'est moi.
De qui?
Qui est comme bien mis comme ni. Pourquoi ils sont bons?
Bonsoir à tous, nous sommes donc tous les soirs en direct du Festival International du Documentaire de Marseille. Dans ce magazine, vous allez pouvoir entendre des chroniques et trois réalisateurs de films en compétition. Olivier Zuchuat pour Au loin des villages, Nathalie Mansou avec Voix d'accès et Christophe Gargaud pour son film D'Arusha à Arusha. Alors on commence par une chronique, celle de Christina qui a rencontré Olivier Durie, le réalisateur de Mirage.
Je voudrais bien savoir qu'est-ce qui vous a mené d'aborder ce sujet de la migration africaine vers l'Europe.
J'étais au Niger en voyage en 98 et une nuit j'ai croisé un véhicule de clandestins au milieu de la nuit. C'était une image assez forte. Moi j'étais sur le point de m'endormir, on s'est retrouvés côte à côte et on s'est regardé. Enfin, ils étaient, je pense, aussi étonnés que moi de voir un blanc comme ça tout seul là-bas. Et après ce voyage, le temps a passé, puis cette image, enfin, elle était toujours là, elle restait, jusqu'à temps que je me dise, bon voilà, il faut que je fasse un film, que je raconte cette histoire-là d'une manière ou d'une autre.
Vous filmez parfois à partir du camion des migrants et on voit l'étroitesse des mauvaises pistes. En plus, les nuits, je crois, étaient assez froides et il y a des tempêtes de sable. Comment un tournage se passe-t-il, dans de quelles circonstances?
Bah, en fait, ça peut être un peu difficile. Enfin, la tempête de sable, moi, j'ai pas vraiment sorti la caméra de la voiture. C'était vraiment prendre le risque qu'après, je n'ai plus de caméra. Et après, la nuit, voilà, bon, bah, il fait un peu froid. Moi, j'étais beaucoup mieux loti que les gens qui voyagent parce que j'avais un sac de couchage. Quoi. Mais et souvent, eux, ils en ont pas. Parfois, ils ont une couverture. Parfois, ils ont juste absolument rien.
Votre caméra s'approche beaucoup aux migrants et ils vous sourient et vous parlent parfois en français. Comment était votre relation avec les migrants et d'où venait cette confiance qu'on peut voir dans le film?
C'est difficile de parler d'une relation en général parce que c'est une grande quantité d'individus qui sont sur les voitures. Donc il y avait des gens avec qui ça pouvait se passer dès le départ assez simplement, d'autres pas du tout. Il y a des gens qui ne voulaient pas que je les filme, donc je ne les ai pas filmés. C'est très difficile qu'il y ait vraiment une relation qui s'instaure entre eux et moi. C'est plus une espèce de respect mutuel. Moi, j'ai passé beaucoup de temps au départ à essayer de leur expliquer ce que je voulais faire. Parce que c'est toujours assez bizarre de voir quelqu'un, un petit blanc avec sa caméra. Je ne crois pas que c'était possible dans un temps si court avec autant de personnes.
En quoi la présence de la caméra change l'atmosphère d'un tel voyage?
Je pense que la présence de la caméra, c'était plutôt quelque chose qui facilitait. Ils étaient assez demandeurs. Enfin, ils étaient, je pense, contents qu'on s'intéresse à eux.
Et ça peut être aussi assez surprenant parce que peut-être on aurait pu croire qu'ils ont peur d'être reconnus quand ils se dirigent vers l'Europe, vers une vie de clandestinité.
Je pense qu'ils ont des inquiétudes qui sont beaucoup, beaucoup plus importantes que ça. Enfin, je vois mal notre cher gouvernement regarder mon film pour essayer de prendre des portraits des gens pour... Non, je crois pas.
Mirage, c'était votre premier film. Qu'est-ce que vous avez appris pendant les tournages?
J'ai appris beaucoup de choses. En fait, peut-être que j'ai appris, c'est que quand on veut faire un film, il ne faut vraiment pas se tromper sur son désir parce que... tout va se battre contre vous pendant très longtemps, donc il faut mieux être sûr que c'est ça qu'on veut faire et voilà.
Et c'est ça que vous voulez faire encore? Est-ce que vous avez déjà un nouveau projet cinématographique?
Enfin, j'ai pas de film que je vais tourner encore demain, mais c'est vrai qu'il y a un film où j'ai déjà tourné une partie qui serait une espèce de road movie familial, donc qui a pas grand chose à voir, enfin si ce n'est que ça voyage aussi, mais autrement pas grand chose à voir avec celui-là. Bon, c'est encore très très fragile et je suis pas encore très très sûr de ce que ça pourrait être.
Olivier Durie, dont le film Mirage sera projeté demain à 13h45 à La Criée. Nous avons le plaisir d'accueillir Olivier Zuchuat. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez réalisé Au loin des villages, un film tourné juste à côté du Darfour. dans un camp de déplacés tchadiens. Alors on peut dire que c'est un film sur le deuil et sur l'attente.
Oui. Disons que j'étais parti pour faire un film principalement sur l'attente. Ce qui m'intéressait, c'est cet état que les réfugiés doivent subir, qui est d'attendre sous des tentes, parfois pendant 2 ans, parfois pendant 3 ans, parfois pendant 15 ans, dans le cas par exemple de réfugiés du Soudan qui sont en Éthiopie. Et quand je suis en fait arrivé, ces réfugiés que je voulais filmer étaient en fait entourés de nouveaux réfugiés qui venaient d'arriver et qui, eux, venaient de subir des massacres. Et donc je me suis dit, ben tiens, je vais faire un film qui va devenir en fait aussi un film de guerre. Mais il n'y a pas une seule image de guerre dans ce film. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de traiter la guerre en fait en hors-champ, ou plutôt en hors-camp. Voilà, on se massacre malheureusement à 40 km autour du camp, mais il n'y a pas une seule image, alors que j'aurais pu en fait en avoir, enfin, j'ai des photos et des choses comme ça, mais j'ai préféré en fait contenir mon film à l'exclusivité à l'intérieur du camp.
Alors je vous propose d'écouter la chronique de Xavier Thomas, qui porte donc sur votre film, et démarre avec la séquence où un des protagonistes lit toute une liste de noms de personnes qui sont décédées, qui ont subi le massacre, donc c'est les noms et les villages d'où ils viennent.
Hawa Gamar Mohamed Kedirani, Amsakine Younous Kedirani, Youssouf Abbakar Koya Jedidini, Ousmane Adam Hilal Farjani, Abbakar Abdelkrim Hilal Daouni, Kondi Abaharoun Koumini, Abouchouf Koumini.
On a coutume d'aborder la guerre du Darfour sous l'angle de la géopolitique ou des stratégies humanitaires, c'est-à-dire vue d'en haut. Au loin, des villages, le film d'Olivier Zuchoa envisage ce conflit sous l'angle d'un après-guerre, mais est-elle vraiment finie? Et en close-up, de très près, dans un camp à l'est du Tchad, où les rescapés de l'ethnie Dajo comptent et recomptent les victimes des massacres perpétrés par les Janjaouides, ces diables à cheval arabophones venus du Soudan.
Abdelrazik Ousmane et le Bourdain.
Avec pour parti pris d'éviter le pathos, le choc des images et la pesanteur des commentaires, au loin, des villages évoquent de façon excessivement pudique ce que la mémoire peut traduire d'un massacre, quand le non-dit et l'anecdote tiennent lieu de récit. Celui-ci raconte comment ces gris-gris lui conféraient un blindage contre les balles, mais aujourd'hui, quel gris-gris blindera son esprit contre les horreurs indicibles ? Celui-là fait une démonstration de karaté, gesticulation guerrière qui le console peut-être de la honte d'avoir été vaincu. Peut-on croire un instant que ces hommes et ces femmes se reconstruisent dans ce camp sous protectorat humanitaire? Les sacs de riz estampillés du drapeau de l'Europe qu'on sort opportunément d'un camion devant la caméra, si nécessaire soit-il, valent-ils mieux que les armes M14, Kalash, qu'un homme énumère en racontant ses batailles? Question sans réponse, mais aujourd'hui le doute plane, comme autrefois la menace. Sous le soleil implacable du Darfour, les arbres ne portent plus d'ombre, les ombres sont dans les têtes. Ce que la caméra voit, c'est la lumière, pas l'ombre, qui n'impressionne rien, ni personne. Elle ne voit que ce qu'on lui donne à voir.
Haroun Ishaq Mustafa Barmadengini, Ousmane Adam Dambolini, Moussa Abbaqar Dambolini, Abd Ishaq Tundongini, Youssef Ibrahim Tundongini.
Alors, Olivier Zuchoa, j'imagine que vous avez des réactions par rapport à ce que vous venez d'entendre. Peut-être sur la dernière phrase, est-ce que vous avez eu le sentiment que la caméra ne voyait que ce qu'on lui donnait à voir?
Il est clair que quand vous entrez dans un camp et décidez de filmer les gens, la première chose à faire, c'est attendre qu'ils aient envie de vous dire quelque chose. Donc moi, j'ai passé mon temps à attendre. Et ensuite, souvent, les gens venaient me parler. Y a une fois un réfugié qui est arrivé, il s'est assis devant la caméra et il a parlé pendant 1 heure sans s'arrêter. Moi, à ce moment-là, je ne comprends pas ce qu'il dit. Il faut savoir que la langue d'Adjo, c'est une langue qui est extrêmement rare. Il y a moins de 100 000 personnes qui la parlent dans le monde. Et c'est vraiment que cette tribu à la frontière entre le Tchad et le Darfour. Donc moi, je ne comprenais pas ce qu'il disait. C'est seulement après, quand on faisait une traduction le soir, que je comprenais ce qu'on m'avait dit. Donc à partir de là, il est clair que j'ai parfois posé des questions. Mais généralement, après un mois, donc moi j'ai séjourné 2 mois dans ce camp, après un mois, les gens sont venus spontanément me dire des choses. Tout d'un coup, quelqu'un venait, on me tirait par la manche, puis on me disait, viens, voilà, tu vas là-bas. Alors j'ouvrais ma caméra, et puis tout d'un coup, ben voilà, il y avait 15 petites filles qui chantent une chanson guerrière. Voilà, elles avaient envie de dire ça, elles l'ont dit comme ça. Une autre fois, il y a ce personnage qu'on a entendu là qui lit en fait tous ses noms, qui en fait a amené son cahier, lit les noms de tous les morts de la bataille de Kolloy de septembre 2005. Voilà, ça dure 5 minutes. Je ne coupe pas, même pas au montage. Après, ils m'ont dit que pour eux, c'est comme si le fait d'avoir dit ça en fait à la caméra, à cet œil du monde, pour eux, j'étais la première personne qui venait les écouter. Donc c'était très important de pouvoir dire tout ça. Et donc après, ils ont dit que cette séquence était comme un enterrement pour eux. Il faut savoir que c'est très important pour eux de pouvoir enterrer les morts, mais quand les Janjaweed attaquent, généralement, ce qu'ils font, c'est qu'ils viennent les réattaquer au moment où ils enterrent les morts. Comme ça, en fait, ils sont sûrs d'avoir massacré tout le monde. À partir de là, ils ont été obligés, en fait, de ne plus enterrer les gens. Et dans la tradition musulmane, c'est extrêmement grave de ne pas avoir pu enterrer quelqu'un. C'est un grand problème. Donc pour eux, le fait de dire ça, en fait, à la caméra, c'était comme un espèce de succès d'année, un ersatz. Au moins, leur nom était gravé quelque part. Pas dans le marbre, mais dans la pellicule, on dirait.
Et est-ce que votre film se situe dans l'après-guerre ou plutôt bel et bien pendant la guerre, à quelques kilomètres des attaques ?
Mais disons que c'est une guerre qui a commencé en 2003, en fait, à la frontière soudano-tchadienne. Donc il est clair que le gros des combats s'est fait entre 2003 et 2006. Donc le film, lui, commence lors de mon premier tournage, vraiment pendant la fin des combats, c'est-à-dire que il y a une des personnes dans le film qui a eu les yeux en fait arrachés à coups de couteau. Bon, c'est des choses qui sont terribles à dire comme ça. Et donc cette personne en fait a été attaquée pendant que je faisais les repérages et le premier tournage de ce camp. Mais en fait après on a tous dû évacuer la région parce que il y a eu une attaque de rebelles en fait. Et moi j'ai dû donc arrêter mon tournage. J'ai dû ensuite attendre 7 mois pour pouvoir reprendre mon tournage, que en fait il y a la saison des pluies qui fait que tous les wadis, c'est-à-dire les rivières, sont totalement inondées, et à partir de là il n'y a plus d'attaque, c'est-à-dire que comme au Tchad on attaque soit en Jeep Toyota soit à d'autres chameaux, et que ni l'un ni l'autre ne nage à travers les wadis, à partir de là l'affaire était réglée. Donc il y avait un certain calme.
Et alors, sans entrer dans les aspects géopolitiques du conflit du Darfour, vous sous-entendez sa complexité dans le choix des déplacés, donc dans le choix de ce camp, puisque ceux que vous avez filmés, en fait, ont subi des massacres. À un moment, ils expliquent de la part d'une tribu tchadienne voisine de la leur, qui s'est alliée aux Janjaweed.
Oui, alors c'est extrêmement compliqué. Il faut savoir donc que en Afrique, il y a toujours eu, à travers tout le continent, et même chez nous, ici en Europe, il y a bien longtemps, des conflits entre les éleveurs et les agriculteurs. Pourquoi ? Les éleveurs ont des vaches qui mangent les champs. Bon, ici, on a inventé le fil de fer barbelé, en Afrique, pas. Donc, on l'utilise pas parce que les troupeaux doivent traverser des zones colossales. Donc il y a toujours eu en fait des conflits entre les éleveurs, qui sont généralement des Arabes, et les agriculteurs, dont on dirait que c'est des Noirs plutôt sédentaires. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'en fait ces querelles jusqu'à présent se passaient toujours à coups de flèches empoisonnées, à coups de lances, etc. Et tout d'un coup, en fait, dû au conflit en fait au Darfour, où là c'est un problème politique, c'est-à-dire qu'il y a une rébellion en fait au Darfour qui lutte en fait contre le pouvoir de Khartoum, qui lui a instrumentalisé les milices Janjaweed, qui sont en fait des Arabes nomades à qui ils ont distribué des kalachnikovs et fait une espèce de semi-structure militaire, c'est une milice quoi. Et ces milices en fait naturellement sont vite passées sans aucun contrôle et sont devenues en fait des bandes de pillards qui se sont mis en fait à faire des guerres éclairs comme ça pour aller piller des troupeaux. Et donc ils ont forcément traversé la frontière, ils se sont alliés avec les tribus arabes au Tchad qui sont semi-nomades et qui faisaient des petites guérillas avec les agriculteurs, et à partir de là ça fait un espèce de circuit sans fin où la tension est montée et on est arrivé à des massacres de très grande envergure. Mais c'est extrêmement complexe. Et c'est surtout là, actuellement, il y a le refort, là, donc l'armée qui a été en fait envoyée. Mais qu'est-ce que vous voulez que des gens fassent en hélicoptère dans une zone aussi vaste? Qu'est-ce que c'est qu'un Janjaweed? C'est juste un type qui a un chameau et puis qui a une Kalachnikov enterrée dans le sable à quelque part. Alors comment allez-vous lutter la contre? C'est une guerre qui est d'une telle basse intensité, qui est tellement en fait complexe, que ça ne peut être qu'une solution politique et surtout aussi une solution économique. Or, le problème, c'est que pour l'instant, qu'est-ce qu'on offre comme moyen? Que des moyens purement militaires. Bon, ça, c'était pour la géopolitique qui n'est bien entendu pas dans le film.
Et alors, vous pouvez nous parler des conditions du tournage, puisque c'est donc, vous avez attendu une première phase avec des grosses difficultés. Ensuite, vous avez attendu la saison des pluies qui allait permettre un peu plus de sécurité. Mais cette zone est très difficile d'accès. Alors, comment vous avez fait? Vous étiez tout seul en plus?
Moi, j'ai fait ce film tout seul, de A à Z, en fait, avec la complicité d'une ONG italienne qui s'appelle COPI, Cooperazione Internazionale, qui sont en fait l'ONG qui gère le seul hôpital à 400 km à la ronde. Et donc, c'est avec eux que j'ai fait ce film et qui m'ont fourni la logistique. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que pendant à peu près 2 mois, je me suis rendu tous les jours, très tôt le matin, parce que c'est là que la lumière est la meilleure, donc généralement à 5h du matin. Et j'ai arpenté le camp, au départ, juste avec ma caméra, mais sans jamais filmer. Et puis, au bout d'un moment, je me suis mis en fait à filmer. Et j'ai initié un des déplacés à la prise de son. C'est lui qui a pris le son, en fait, pendant les interviews. Enfin, ces espèces de longues prises de parole, c'est pas des interviews, elles durent parfois 5-6 minutes. Moi, je ne posais pas de questions. Et ce qui posait bien entendu des problèmes à ce réfugié, parce qu'il faut savoir qu'en fait, ils sont nourris à coups de 1800 kilocalories par jour, et il en faut 2000 pour être bien portant. Donc, souvent, la perche tombait dans le champ parce qu'il n'avait plus de force. Voilà pour un détail qui en raconte long.
Et la vocation du film, c'est de garder les traces pour qu'une page d'histoire de cette guerre ne soit pas oubliée, et aussi de contribuer à la justice, non? Puisque j'ai lu qu'une partie des rushs avait été transmise à la Cour pénale internationale.
Oui, en fait, il faut savoir qu'il n'y a eu aucune couverture, de la presse, même d'autres ONG, de ce qui s'est passé. Donc ce film, c'est une des seules traces de tout ce qui s'est passé en fait dans cette région. Moi, j'ai en fait des heures et des heures de lecture de cahiers, par exemple, où il y a le nom des morts et des récits de bataille. Et tout ça, en effet, est à la Cour pénale internationale. Dans le cadre de l'instruction du procès contre les Janjaweed, etc. Mais il faut savoir que tout ça est totalement vain. Le premier inculpé de la Cour pénale internationale, qui s'appelle Mamat Haroun, qui était en fait le ministre de la Défense, et un autre qui est le chef des milices Janjaweed, qui s'appelle Ali Kocher, c'est...
Ministre de la Défense soudanais.
Excusez-moi, oui, ministre de la Défense soudanais. Et donc... en fait, au moment où il a été inculpé, il a été nommé par le président soudanais responsable des missions humanitaires, ce qui est quand même le pied de nez le plus fabuleux que vous puissiez faire à la justice internationale. Donc maintenant, tous les gens qui viennent soigner les victimes de cette guerre doivent passer par le principal bourreau. C'est assez habile.
Merci beaucoup, Olivier Zuchua. Je rappelle que votre film « Au loin des villages » va être projeté ce soir à 20h30 à La Criée et demain à 20h aux Variétés.
Merci.
Alors on va quitter l'Afrique pour y revenir un peu plus tard et d'ailleurs aborder les questions de justice internationale. Pour l'instant, penchons-nous sur le film de Nathalie Mansou qui s'intitule « Voie d'accès ». Bonsoir.
Bonsoir.
Vous pouvez nous expliquer l'intention de votre premier film autour de la destruction d'un quartier d'immigrés de Lisbonne?
Ben en fait, j'habite à Lisbonne depuis 10 ans. Donc, j'ai suivi un peu ce qui se passait là-bas. Je me suis rendue... Il y a 3 ans, j'ai assisté à une assemblée municipale où il y avait des gens qui avaient été logés, qui allaient réclamer leurs droits au maire. Là, j'ai pris conscience de la violence des faits et j'ai commencé à filmer. Donc, ensuite, j'ai écrit aussi le projet pour avoir des aides que je n'ai pas reçues. Et j'ai continué à filmer pendant 1 an et demi. Après, il y a Justine qui est intervenue au moment du montage, donc. Et on a en fait coécrit le film au moment du montage ensemble, pour cette version finale en fait du projet. Mm.
Alors en fait, on trouvait que votre film faisait écho à ce qui se passe dans différentes villes dans le monde, au nord et au sud d'ailleurs, et à Marseille aussi. Et donc ça fait écho notamment à une opération de réhabilitation qui a lieu non loin d'ici, juste de l'autre côté du Vieux-Port. Et donc on vous a concocté une chronique qui devrait vous interpeller. Robex, tu as montré le film Voie d'accès à Vincent. Alors c'est qui Vincent ?
Alors Vincent, c'est un commerçant de la rue de la République qui a été expulsé au moment des travaux de remède à la réhabilitation de la rue et qui a été obligé de déménager. Et du coup, comme il a toujours été militant, il a milité, il a été objecteur, etc., il s'est mis dans ce combat pour défendre les droits des habitants de la rue de la République et il s'est inscrit contre les promoteurs, etc. Mais bon, il n'a pas pu vraiment lutter. Mais il a été présent dans un film.
Voilà, c'est ça. C'est qu'il se trouve en fait que Vincent, donc on va entendre, est lui-même devenu un des personnages d'un documentaire sur les expulsions rue de la République. Ce film s'intitule Les Indésirables et il a été réalisé par Patrick Taliercio. Et on peut le trouver, il est diffusé en DVD avec le dernier numéro de la revue Agone. Alors on écoute la réaction de Vincent face au film de Nathalie Mansou, Voie d'accès.
Vincent Mounet, j'étais à partir de 1998 commerçant à la rue de la République au 59, j'avais un magasin de lingerie, d'orthopédie. Janvier 2007, j'ai subi le non-renouvellement de mon bail commercial, bien au contraire, on m'a dit vous devez partir, on est obligé de vous indemniser, on va discuter la somme et vous partez. J'ai vu le film Voie d'accès de Nathalie Mansou sur les expulsions à Lisbonne. Ce dont on peut se rendre compte, c'est que on n'est pas exactement dans la même configuration qu'à Marseille. À Lisbonne, on a affaire à déjà a priori de l'administration de la mairie. À Marseille, on s'est dédouané en faisant venir des gros investisseurs. Mais qu'en fait, les ficelles, les manières de faire sont par contre exactement les mêmes. C'est-à-dire que la mairie s'est retranchée derrière ces gens-là, mais en fait, la manière est toujours la même. C'est-à-dire qu'on part d'un quartier, d'un endroit, d'une rue, qu'on laisse à l'abandon pendant des années, et même on invite des pauvres à venir dans des conditions abominables à habiter. Et ensuite, on arrive et on dit, mais ici, c'est intolérable, il faut faire table rase. Hein, c'est-à-dire que là, on ne peut plus composer, il faut tout lever, il faut enlever tout le monde et il faut faire quelque chose de propre, de neuf. Ce que j'ai surtout retenu dans le film de Marcand, c'est ce qui a fait écho dans ce que j'ai vécu à la rue de la République, ou plus exactement, moi j'étais commerçant, c'était un peu différent, mais en tout cas, comment ont été traités les locataires à la rue de la République, il y a des similitudes frappantes. C'est, par exemple, au tout début du film, on voit l'esprit procédurier. Une fois qu'on a suivi la procédure de A à Z, exactement comme on nous l'a indiqué, on dit « Ah mais non, mais vous rentrez pas dans le cadre ». Donc on a droit à quoi ? À rien. Quand on parle, on dit « Mais on reloge les gens », on dit « Mais non, on laisse personne », il faut dégager. Et quand on dégage les gens, ben les choses ne sont pas faites comme il faut. Si on reloge les gens, on prend le temps, on fait comme il faut. Au final, on leur dit qu'en fait, ils ne rentrent pas dans ce cadre légal, parce qu'on est soi-disant dans un état de droit et qu'on ne rentre pas dans un cadre légal, on n'est plus rien, on dégage. C'est terminé. Une chose très importante aussi que j'ai vue dans le film, et c'est frappant aussi à Marseille, par rapport aux indemnisations. On dit aux gens, ne vous inquiétez pas, on va vous reloger avec une petite indemnité. Non seulement l'indemnité, grosso modo, on la voit pas, ou on en voit une toute petite. Quand on a un discours de politique, on dit, mais on a proposé un relogement à tout le monde. Il y a même qui l'ont pas voulu, qui sont partis ailleurs. Pourquoi? Pas parce qu'ils l'ont pas voulu, parce qu'ils ne pouvaient pas payer le loyer. Ça, jamais, à la voix officielle, ne nous le dira. Et là, par contre, je peux faire, évidemment, la relation avec moi. C'est exactement pareil pour les commerces, au niveau du prix des loyers. C'est-à-dire que moi, j'ai mis un an à retrouver un local commercial parce que je ne pouvais pas payer les loyers des locaux commerciaux parce qu'on ne veut plus de nous, on ne veut plus du petit commerce et on ne veut surtout pas des petits commerçants qui seraient encore à l'écoute des pauvres gens qui étaient là à l'époque et qu'on veut faire des garpiers. Ensuite, les autres similitudes, il y en a une qui m'a frappé, c'était par rapport à la réaction, l'entraide, le militantisme qu'il y a autour. On se confronte à des grosses machines qui sont rodées, qui ont préparé le terrain, etc. On a affaire à des gens qui sont pauvres, qui ne sont pas organisés, qui n'ont pas forcément une conscience politique exacerbée. On joue là-dessus. Ensuite, bien évidemment, l'aspect public de tout ça, c'est la réaction des médias. On voit à un moment donné dans le film un documentaire où je sais pas, c'est extrait de la télé. Donc on voit les gens se faire expulser, intervention de la police et tout, coupé par une publicité avec une belle brune au bord de la plage en train de se passer une crème solaire. C'est un peu ce qui s'est passé aussi à Marseille. Les médias, bien évidemment, ils vont relater ce qu'ils entendent Et ce qu'ils entendent, en fait, c'est la voix du puissant, forcément. Hein, puisque les gens, en face, sont désorganisés, qui n'ont pas, en plus, forcément, l'habitude de se battre, et qui n'ont aussi certainement pas l'envie. Ils vont pas venir mettre les mains dans la merde. À la fin du film, c'est bien montré par les images. On veut faire place nette. Donc tout ça, au final, ce n'est qu'un coup de business. C'est bien beau, l'argent. Mais on a quand même dégagé des êtres humains. Faut pas l'oublier. Et évidemment, ce qu'a fait Nathalie Mansou, je trouve, est un travail très intéressant. Je trouve vraiment admirable que des gens comme ça puissent venir quand il y a vraiment des problèmes, parce que ce ne sont pas des problèmes anodins. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que ça a été fait aussi sur Marseille. Le film est de Patrick Tarsiello, intitulé « Les Indésirables », donc sur les expulsions à la rue de la République à Marseille. Donc si j'ai un compliment à faire, c'est ça. Ce n'est pas tout le monde qui a le courage de venir, de montrer ça. Au contraire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est très bien de montrer ce qui s'est passé et comment ça s'est passé. Je ne connais pas Nathalie Mansou. Est-ce que les gens ont été relogés acceptant les propositions qui leur ont été faites par, en l'occurrence là, à Lisbonne, c'était la mairie? Est-ce que ces gens-là n'ont pas pu accepter ces propositions et étaient obligés de se reloger par eux-mêmes? Ceux qui ont accepté, où ils sont? Et ceux qui n'ont pas accepté, où ils sont? Mais ce que j'ai envie de demander à Nathalie Mansou sur les expulsions à Lisbonne, est-ce qu'elle a le projet de faire un suivi là-dessus?
Alors Nathalie Mansou, qu'est-ce que vous répondez à toutes ces questions donc, de ce petit commerçant qui a été contraint de déménager à cause d'un plan dit de revitalisation ici rue de la République à Marseille?
Vis-à-vis du relogement, au moment où je suis arrivée dans le quartier, tous les gens qui étaient inclus dans le programme de relogement avaient été relogés. Donc les gens que j'ai filmés n'ont pas été relogés. À part des femmes qui ont eu des enfants entre-temps et à qui on a trouvé un logement séparé des parents, parce qu'en fait qui devaient être logés avec leurs parents. Donc il y en a qui sont retrouvés dans la rue, il y en a qui ont été dans les appartements de parents. Donc il y a un surpeuplement des appartements, notamment dans les logements sociaux. Et alors l'autre question, c'était le...
Est-ce que vous
par rapport au suivi.
Oui.
Pour l'instant, non, j'ai d'autres projets. Enfin, je dois suivre un autre projet que j'avais commencé avant ce film. Mais à long terme, pourquoi pas, oui.
Et alors, aussi, donc quand il compare la situation rue de la République et celle à Lisbonne, ici, on a un partenariat public-privé, en fait. Et donc, l'intérêt dit général s'allie à l'intérêt privé, à des intérêts privés pour mener des opérations immobilières. À Lisbonne, c'est la mairie directement donc l'institution publique qui dirige ces expulsions d'habitants et cette démolition de quartiers. Et vous, en voix off, vous reprenez les courriers administratifs, donc qui sont des fins de non-recevoir signées de la mairie. C'est une façon de montrer la brutalité, le caractère inhumain de la procédure.
Oui, tout à fait. Mais sachant que derrière la mairie, il y a les promoteurs immobiliers, c'est évident, quoi. Et la pression vient des promoteurs immobiliers. Parce que là, ils ont démoli le quartier en août 2006. Il n'y a toujours rien de construit dessus. Ils attendent la fin de la construction du supermarché pour construire l'autoroute qui va mener au supermarché. Donc, c'est clair que c'est violent et c'est laid. Oui, en fait, laid, c'est plutôt le manque de dialogue qui existe entre les représentants de la mairie et les habitants. La seule présence de la mairie sur place, enfin, c'est la police, quoi.
Et du coup, avec ces lettres aussi, vous montrez l'impuissance des victimes face à cette grosse machine. Là aussi, Vincent me parlait pour Marseille aussi d'une grosse machine contre laquelle on ne peut pas lutter. Justine, peut-être, tu as participé au montage, c'est ça?
Oui.
Et à l'écriture.
Voilà. Juste par rapport au public privé, c'est vrai que donc les lettres sont là pour montrer la loi qui... Enfin...
Allez-y. Hein.
Je suis un petit peu timide, mais j'y arrive. Mais c'est vrai que finalement la loi, elle est donc c'est l'État qui est là, mais l'État, enfin cette loi est là pour protéger finalement les intérêts privés et un investissement derrière de, je crois, 230 millions d'euros. Nathalie parlait d'un supermarché, mais en fait c'est le plus grand centre commercial. Le projet du plus grand centre commercial d'Europe. Et donc c'est cette complicité entre la loi, l'État, la municipalité et des énormes groupes privés aussi qui est présente à travers ces textes.
Et donc qui forment une grosse machine contre laquelle c'est très difficile de lutter, parce que là, cette lutte que vous filmez aussi, cette mobilisation, cette résistance, la fin est tragique. À la fin, c'est les grues qui démolissent, d'ailleurs, un peu comme des animaux qui détruisent voilà, toutes ces baraques.
Oui, c'est une énorme machine. Alors bon, il faut dire que bon, ce quartier il n'était pas organisé. Donc cette lutte, elle est venue de l'extérieur. Donc c'était pas vraiment une lutte. On a été un peu déçus aussi au moment de... Parce que les gens ne sentaient pas forcément cette lutte. Sachant qu'il y a aussi des quartiers plus organisés où il y a plus de résistance et où les démolitions ne sont pas inexorables. Bon, on ne sait pas, mais il peut y avoir d'autres des projets de réhabilitation.
Et est-ce que vous souhaitez que votre film serve d'outil justement pour organiser des résistances face à la gentrification ou la démolition de quartiers ?
Oui, pourquoi pas. Oui.
Pourquoi ?
Mais non, il y a déjà des architectes qui ont vu le film, qui ont été intéressés, notamment des professeurs qui travaillent sur la réhabilitation des quartiers et qui veulent le montrer à leurs élèves.
Et vous le faites tourner dans des quartiers menacés ?
Je l'ai montré dans un autre quartier. Et puis l'idée, c'est de le montrer dans plusieurs quartiers. Il a été filmé là en avril, donc on n'a pas eu trop le temps de
le diffuser. Mais c'est dans vos projets.
Oui, oui, tout à fait. Et on l'a montré une fois dans une petite baraque, dans un quartier. C'était super.
À
Lisbonne. Et après aussi, on a donné la caméra aux gens pour qu'ils filment eux-mêmes leur situation.
Et alors, il n'y a hélas plus de projection au feed de votre film. Où est-ce qu'on pourra le voir ? Quel est l'avenir de ce film ?
Officiellement, je ne sais pas encore. Donc, il va passer, je pense, dans d'autres festivals.
Oui. D'accord, merci beaucoup Nathalie Mansou et Justine alors. Robex, tu es allé faire un tour aux soirées éphémères qui sont organisées dans le cadre du FID ?
Oui, je suis passé d'un extrême à l'autre, la rue de la République à éphémère, c'est l'autre côté du Vieux-Port. En fait, je trouve que c'est un lieu qui est intéressant parce qu'il est monté par une équipe énergique. Ça fait depuis 2001 qu'ils sont installés au bout du quai Marcel Pagnol. Et ils proposent chaque soir une soirée à thème différente avec des DJ, des musiciens. Et ils proposent une cuisine un peu spéciale. Donc je suis allé les rencontrer et ils nous parlent de l'installation du lieu et ce qu'ils proposent cette année.
Je suis Sophie Nardone et je suis la productrice exécutive d'Éphémère. Donc je m'occupe de toute la programmation et puis de la construction, de la fabrication du lieu. Créer un petit havre de paix au bord du port, tant pour les festivaliers que pour les gens marseillais qui n'ont pas... finalement, tant l'occasion de ça, de boire des coups au bord de l'eau, quoi. Donc après, c'est aussi un peu un lieu de rencontre pour les musiciens et plein d'artistes.
Alors, le lieu, il se présente comment ?
Le lieu, c'est un chapiteau tente, complètement ouvert. Et sur ce blanc, on a ajouté plein de couleurs. C'est Miss Mu qui en a fait la déco. Donc elle a amené son petit truc vintage, ses meubles années 60. Et elle a travaillé aussi avec les Jnoun, qui ont amené aussi leurs photos et le travail qu'ils font sur les meubles.
Tu proposes quoi en cuisine ?
Alors là, c'est les Jnoun, donc c'est Philippe Ivanez qui a aussi travaillé sur la décoration cette année du lieu, qui est arrivé avec son équipe brésilienne, et ils font une cuisine brésilio-méditerranéo-marseillaiso.
Philippe Ivanez, les Jnoun, la cuisine des Jnoun, avec Zeca Correa, mon associé cuisinier brésilien.
Afro-brésilien.
Qui nous a préparé une spécialité immangeable en France, qui s'appelle acarajé.
Et quand tu manges d'acarajé, tu n'arrêtes pas de manger d'acarajé.
C'est un concept de cuisine. C'est, comme vient de le dire Zé, c'était une cuisine de... L'acarajé, c'était un beignet de bourgeois qui, à un moment, est devenu le beignet du peuple.
Et c'est un petit catering qui est ouvert à partir de 19h, comme le lieu et comme le bar.
Donc jusqu'à 2h du matin, on peut faire la fête au bout du quai Marcel Pagnol.
C'est vraiment un échange et un partage avec différents musiciens que j'aime beaucoup. Il n'y a pas un seul soir où ça va être la même énergie.
Un peu comme le FID.
Un peu comme le FID, et ça c'est quand même grâce aussi à des artistes auxquels j'ai fait appel pour m'aider dans la programmation, à qui j'ai donné des cartes blanches.
Jusqu'à lundi, il va se passer quoi ?
Samedi, c'est plus une soirée concert. Donc il y a O Tiger Mountain qui vient faire une petite performance de 40 minutes à l'extérieur, sur la terrasse. Donc je pense que ça va être sympa. Et ça, ça va être vers 21h30. Un intérieur jour vers 23h. Et ensuite, un ping-pong entre Marc, FK Club et l'amateur. Dimanche, c'est une soirée famille électro du sud-ouest, Audois. Donc là, il y a 5 artistes de ce label qui vont venir. Il y a Krilo qui va faire un live. Il y a Punky Wash, c'est plutôt de l'électro-rock. Janos, Freaky Makers aussi, plus minimal. Et Climat, un live vidéo durant toute la soirée. Et lundi, c'est une soirée Neoprene Records. Donc il y a Humantronic qui vient, Pop Free et James Taylor donc de Sueza qui sera avec nous lundi pour cette soirée de clôture.
C'est toujours organisé en même temps que le feed. Comment ça se passe avec le feed?
Bah avec le feed, on fait vraiment partie du feed, comme le 61 Canebière, la Criée ou les variétés au moment du festival. Jean-Pierre Rem, ça se passe super bien.
Est-ce que les gens qui travaillent à Éphémère ont le temps d'aller voir des documentaires?
Oui. Il y en a qui prennent le temps, en tout cas, de le faire. Et c'est bien, c'est important, parce qu'on a quand même tous les soirs les réalisateurs qui passent par ici. Et c'est bien de pouvoir d'échanger, quoi. Ça a toujours été la volonté de ce lieu, un lieu d'échange, très libre en même temps. Voilà, et ça reste ça.
Donc Éphémère, même au bout du quai, c'est un documentaire.
Un peu, ouais, un peu. C'est un peu ça.
Merci, on te laisse dans l'ambiance.
Voilà pour les soirées éphémères. On revient à la programmation cinéma du FID et nous accueillons maintenant Christophe Gargaud, réalisateur du film d'Arusha à Arusha, du nom de la ville de Tanzanie où est basé le tribunal pénal international pour le Rwanda. Christophe, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, ton documentaire avait été présenté au FID l'année dernière lors d'une séance un peu spéciale puisque le film était en cours de montage. Et donc, ton premier film est maintenant terminé. Il est en compétition. Tu peux nous expliquer quelle était ton intention?
Le projet du film, il est assez simple. C'est de faire un film sur la justice pénale internationale qui est une justice qui, après 50 ans d'oubli depuis Nuremberg, a réémergé dans les années 90 avec comme premier tribunal concret le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie qui était basé à La Haye. Et puis son homologue africain, le tribunal pénal international pour le Rwanda, basé en Tanzanie, à Arusha, chargé de poursuivre les principaux auteurs et commanditaires du drame rwandais. Et j'ai choisi de, au fond, à partir du cas concret du tribunal pénal international pour le Rwanda, essayer d'éclairer un peu plus largement quels sont les enjeux et puis les limites dans lesquelles la justice internationale est prise aujourd'hui. Juste par rapport au travail présenté l'année dernière, il ne s'agissait pas du tout d'un travail au début de montage, c'était juste du rush, juste à l'issue du tournage.
Et comment t'es venue l'idée de travailler sur la justice internationale?
Ça a été progressif. Au départ, j'avais vis-à-vis de la justice internationale une curiosité qui était nourri par un ami qui était journaliste et qui lui était basé à Arusha en permanence. C'est donc lui en fait qui m'a progressivement introduit dans le sujet. Et puis je vais moi-même me rendre à Arusha en Tanzanie, je vais pénétrer la salle d'audience, je vais ici vivre une expérience un peu contrastée, à la fois fascinée et puis un peu inquiet. Et c'est surtout à partir du moment où je vais découvrir que cette justice se fait filmer que là ça va devenir de plus en plus concret comme projet, à savoir contrairement au contexte français où filmer la justice est toujours très compliqué, on ne le fait que pour dans des conditions des procès exceptionnels entourés par un cadre normatif très strict. Dans le cas ici des TPI, il n'y en a aucun, c'est-à-dire il n'y a aucun cadre normatif, il n'y a aucune règle particulière, c'est une archive qui est disponible, libre de droit, utilisable comme bon nous semble. Cette relation particulière que la justice avait dès le départ avec la façon de se montrer, la nécessité de se montrer, m'a particulièrement intéressé. Et j'en ai fait une première question qui consistait à dire quelle est la capacité de l'image à témoigner. Et puis un peu plus tard, une deuxième question qui était... Au fond, qu'est-ce que cette justice, en nous montrant, nous cache, puisque par nature, il s'agit d'un régime subjectif.
Alors ton film montre très bien la complexité de la justice avec ses différentes instances, ses différents niveaux qui se superposent, se mêlent. Et donc le personnage central, c'est le TPI rwandais, chargé de juger donc, les responsables du génocide qui est basé donc, en Tanzanie, très loin de la population rwandaise. Et d'ailleurs, c'est ce qui est souligné dans le film, puisque c'est toi qui montres les images des audiences à des Rwandais. Alors pourquoi avoir choisi ce dispositif ?
Justement parce que les premiers concernés, à savoir les Rwandais, ne vont avoir aucune relation avec ce tribunal. Donc il m'a semblé qu'à partir du moment où je disposais de la matière audiovisuelle, je l'ai utilisé un peu comme un véhicule pour recréer a posteriori un rendez-vous qui n'avait pas eu lieu. La raison pour laquelle le tribunal est basé à Arusha, elles sont multiples en fait. La première d'abord, c'est que le seul pays qui a refusé la création de ce tribunal, c'est le Rwanda, lorsque la résolution a été décidée en novembre 1994. Donc le seul pays qui s'y est opposé, c'est le Rwanda. Il voulait lui-même juger les principaux acteurs. L'autre raison, c'est que donc, la justice internationale ne pouvait pas s'installer au Rwanda. Et puis, elle ne pouvait pas non plus s'installer dans beaucoup des pays proches du Rwanda, pour plein de raisons. Le Burundi, c'était un peu le Rwanda à l'envers. Le Zaïre avait été allié du régime... le Kenya, pardon, était allié du régime d'Abirimana. L'Ouganda était le point de départ du Front patriotique rwandais. Et le Zaïre, maintenant Congo, était dans une situation... déjà éminemment compliqué et avait accueilli beaucoup des réfugiés extrémistes. Donc le seul pays qui, dans cette zone et autour frontalier, qui était relativement calme, c'était le Rwanda, donc, qui permettait comme ça de pouvoir quand même poursuivre les enquêtes sans faire des milliers de kilomètres. Puis l'autre raison, c'est qu'Arusha est une ville qui symbolise, c'est un lieu de conférence, Arusha. Et c'est dans cette ville qu'en 1993, des accords de paix avaient été signés entre les principaux acteurs de la guerre qui se jouait au Rwanda depuis 1990. Et donc c'est là où la paix n'a pas pu avoir lieu, c'est là où au fond les conséquences de cette paix qui n'a pas eu lieu sera jugées.
Mais d'ailleurs, Abiyarimana revenait d'Arusha, non, quand il était dans l'avion?
Non, il revenait de Dar es Salaam, en fait.
Ah oui, c'est vrai. Bon, et alors sur ces questions de justice, en fait, sur le sol rwandais, il y a quand même les gachacha, ces tribunaux populaires, je vais y arriver, qui ont été créés pour une fonction de réconciliation. Mais en fait, dans votre film, on sent que cette fonction n'est pas remplie.
Les gachacha, déjà, pour juste repréciser un peu le contexte. Donc gachacha en Kinyarwanda, ça veut dire gazon. Il y a une tradition au Rwanda, comme dans d'autres pays africains, lorsque vous avez un conflit, vous réunissez les acteurs du conflit, vous évoquez publiquement sous l'arbre à palabre le conflit, et les sages tranchent et réconcilient les auteurs du conflit. De cette tradition-là, en s'appuyant sur cette tradition-là de la parole, le Rwanda a à un moment donné décidé de mettre en place une justice dite de réconciliation. Alors, cette justice de réconciliation, d'abord posée comme telle au départ, n'en est absolument pas une. Il ne reste de la tradition gachacha que le nom. Les gachacha, c'est un système pénal, avec un code de procédure pénale, où le régime d'accusation est, où la présomption de culpabilité est totale, où la défense est impossible, où les témoignages sont recevables que s'ils sont à charge. C'est très difficile de venir témoigner pour quelqu'un. Donc, contrairement à ce qui peut exister dans l'esprit des gens, j'ai voulu rappeler que ces gachacha ne modifient pas fondamentalement la relation que la justice propose, à savoir accuser des gens pour qu'ils soient amenés à se défendre ou à reconnaître leur culpabilité. Les gachacha sont articulés exactement de la même manière que les TPR, à ceci près quand même, dans leur philosophie principale. associe. Alors après, il y a énormément de différences, bien sûr. Au TPIR, vous avez le droit d'avoir un avocat. Dans un gadjacha, vous n'en avez pas.
Et alors, à travers la justice, votre film aborde aussi les mécanismes qui ont mené au génocide et est évoqué la radio comme moyen de propagande et de diffusion de messages de haine. Alors à ce propos, on va écouter un montage d'extrait du film donc d'Arusha à Arusha, où l'on entend la tristement célèbre radio des Mille Collines, et ainsi que Jean de Dieu, donc un Hutu que vous avez longuement interviewé.
Vous écoutez la radio-télévision libre de Mille Collines. Il va être 12h dans un peu moins de 18 minutes à Kigali.
Et donc, afin d'alimenter vos réflexions, nous avons pensé et été fouillés dans notre bibliothèque. On a donc choisi pour vous deux extraits du Prince de Nicolas Machiavel. Voici donc un extrait du chapitre 18, de la cruauté ou de la clémence, et s'il vaut mieux être aimé que craint. Je crois qu'il est plus sûr d'être craint que d'être aimé. Les hommes en général sont plus portés à ménager celui qui se fait craindre que celui qui se fait aimer. La raison en est que l'amitié, étant un lien simplement moral de reconnaissance, ne peut tenir contre les calculs de l'intérêt. Au lieu que la crainte a pour base un châtiment dont l'idée reste toujours vivante.
On écoutait sa radio, on mettait des chansons activant les Hutus à aller travailler. Le verbe travailler, ça signifiait tuer. Et quand on attendait des chansons qui insultaient les Tutsis, qui disaient ce sont des insectes, ce sont des serpents, ce sont des... ça activait les gens. Hein.
La guerre ne se terminera qu'avec la reddition du SPR, le SPR étant une association de malfaiteurs en un vrai gang de bandits, des Huns barbares tentant d'envahir le Rwanda. Eh bien, il ne leur reste plus qu'à se dissoudre, qu'à disparaître rapidement, car les foudres du peuple et les foudres de Dieu vont s'unir pour leur apporter le châtiment qu'ils méritent. Le péché est mortel. Le major Paul Kagame, qui prétendait déjà marcher sur Kigali, devrait prendre le chemin de l'enfer, vers où il est en train de s'enfoncer. Voici, chers auditeurs, il est maintenant 24 minutes à Kigali, dans le blindé de la RTLM. Nous vous quittons pour aujourd'hui. Nous félicitons donc nos forces armées pour l'effort qu'elles continuent à fournir. Nous félicitons également toutes les personnes qui se trouvent aux barrières, y compris les épouses qui supportent par moments les mauvaises humeurs de leurs maris qui ont travaillé toute la journée à la sécurité du pays. Notre gouvernement, et que le SPR aille en enfer.
Voilà, c'était donc un extrait du film de Christophe Gargaud, d'Arusha à Arusha, où l'on entendait la radio des Mille Collines. Tu peux nous expliquer, Christophe, la place que tu as donnée dans ce film ?
Alors, la radio dans le film me permet en fait de faire un lien temporel historique. Donc je vais utiliser 4 extraits qui me permettent au fond de couvrir la période qui va de mars 1994 jusqu'en fin juin 1994, On dit que le génocide s'arrête avec la prise de position du FPR à Kigali au début juillet. Donc elle me sert comme ça de faire un lien et puis d'amener une limite de la représentation. C'est-à-dire que cette radio nous confronte à une limite imaginaire. Et le Rwanda nous confronte constamment à ça. Et donc moi j'ai choisi de les utiliser. À la fois, ça sert un peu de preuve, puisqu'on peut considérer que c'est un matériel historique qui sont des éléments de preuve du film ou les éléments de preuve de son récit. Puis en même temps, ça me permet de montrer ou de faire ressentir une incapacité à imaginer ce qui a pu se passer.
Alors, dans ton film, on voit aussi les génocidaires prisonniers. Et il y a une séquence qui met très mal à l'aise le spectateur. C'est quand tu filmes sur la longueur les torses nus des prisonniers qui sont en train de travailler et de reproduire des gestes mécaniques en utilisant des outils qu'on imagine proches de ceux qui servaient à tuer. Pourquoi cette séquence ?
D'abord, les prisonniers, je les utilise tout le long du film. D'abord comme une métaphore, c'est-à-dire que moi je considère que cette justice est une justice prisonnière. Et que le Rwanda est prisonnier de son histoire. Donc il est tellement prisonnier de son histoire que les prisons sont encore remplies de prisonniers. Donc c'est une métaphore tout le long du film et que je fais arriver progressivement jusqu'à cette scène de la prison où je m'approche le plus près possible d'eux pour rappeler quand même qu'un tribunal et que la justice a une dimension sacrificielle. Qui avec le temps est normé, apaisé, mais c'est une dimension sacrificielle. C'est d'ailleurs pour ça que les salles d'audience, notamment en France, sont installées sous la forme d'une croix, par exemple. On s'en rend pas compte, mais c'est que ça. Et donc en faisant ça, ça me permet d'un seul coup de rappeler cette sensation du corps pour ramener le film à ce qu'il est, c'est-à-dire des gens qui à un moment donné ont peut-être commis des crimes et puis qui aujourd'hui le payent de leur vie aussi, et que la conscience de l'autre ne passe pas selon moi que par une sensation intellectuelle ou que par une démarche intellectuelle, elle passe aussi par la prise en corps la prise en compte du corps de l'autre, la sensation du corps de l'autre. Et je crois que cette justice au fond ce qui la rend d'une certaine manière inopérante, c'est probablement le fait qu'elle ne prend pas le risque d'assumer la relation, et en particulier vis-à-vis du public. Donc ça, j'avais besoin à un moment donné d'installer ce rapport de confrontation vis-à-vis duquel la justice internationale, elle, tente d'échapper.
Et alors, on entend souvent parler de justice des vainqueurs. Dans le film, il y a un des protagoniste qui qualifie le tribunal pénal international pour le Rwanda de tribunal des vaincus. Tu peux expliquer ?
Oui, alors c'est une formule qui est en fait pas de l'avocat Raphaël Constant qu'on voit dans le film, mais qui est une formule qui est d'un journaliste et auteur français qui s'appelle Thierry Cruvelier, qui a fait un livre sur le tribunal pénal international qui s'appelle le tribunal des vaincus. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire le tribunal des vaincus, ça permet de mettre en miroir la phrase constamment, la formule constamment utilisée pour dire cette justice n'est pas légitime puisque c'est une justice de vainqueur, à savoir c'est très facile quand on est un vainqueur de juger. Alors certes, mais c'est pas forcément très pertinent parce que pour juger il faut d'abord vaincre. Ce que ça veut dire, c'est que le droit est en fait le masque que revêt la force. Ça, c'est Todorov qui le dit. Mais vous ne pouvez pas juger tant que vous n'avez pas vaincu. Je donnais l'exemple hier soir en Agora. Karadzic n'a pas été vaincu, il n'est pas jugé. Mladic n'a toujours pas été vaincu, il n'est pas jugé. Donc la question, ce n'est pas celle-ci. La question, c'est à partir du moment où une institution se confère une puissance pour juger, comment elle éprouve sa puissance ? Comment elle exerce cette puissance ? Elle l'exerce-t-elle avec à la fois assurance mais aussi humilité, en essayant de rendre justice le plus équitablement possible, ou au contraire, la rend-elle fébrilement, de manière un peu ostentatoire et arrogante. Et là, le TPIR inaugure quelque chose de tout à fait singulier. C'est-à-dire que le TPIR avait un mandat assez large, à la fois restreint et large, mais il devait poursuivre toutes les violations du droit humanitaire commises au Rwanda entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1994. Ce qui incluait, outre le génocide des Tutsis, l'ensemble des crimes commis, les crimes contre l'humanité, mais aussi les crimes de guerre. Et notamment parmi ceux-ci, les crimes commis par le Front patriotique rwandais qui a mené la guerre depuis 90 et qui a commis des crimes aussi de masse. Et le TPIR...
Juste pour préciser, pour remettre dans le contexte, à la tête duquel était Paul Kagame, l'actuel président.
Et donc ce faisant, il va jamais pouvoir, à chaque fois qu'il s'est essayé d'entamer une quelconque poursuite, immédiatement, le FPR et le régime de Kigali lui ont signifié au TPIR que s'il s'aventurait sur ce terrain-là, le Rwanda l'empêcherait de travailler et lui fermait ses portes, c'est-à-dire qu'il était persona non grata. Et la procureure Carla Del Ponte vient dire ça en audience où elle dit qu'elle n'a pas pu obtenir de visa, qu'elle n'a pas pu rentrer dans son bureau à Kigali. Donc ça pose quand même une immense question de légitimité. Et donc seront jugés que les vaincus, à savoir les Hutus extrémistes. Et puis l'autre vaincu, c'est quand même la communauté internationale qui a quand même failli de manière assez considérable au Rwanda 94 et qui ne sera pas, d'une certaine manière, venue à redorer son blason en rendant justice vertueusement.
Alors une dernière question, Christophe, tu t'es fait rattraper par l'actualité et par une autre justice avec la publication en novembre dernier de l'enquête du juge Bruguière sur l'attentat du 6 avril 1994, attentat à l'encontre du président Abiy Ahmed, attentat qui a joué le rôle de déclencheur du génocide au Rwanda. Et cette enquête met en cause l'actuel président rwandais, donc Paul Kagame, qui a du coup rompu toute relation diplomatique avec la France. Dans ton film, on voit Kagame critiquer le fait que la France se mêle des affaires rwandaises. Ça n'a pas été difficile en tant que Français de continuer à tourner au Rwanda ?
Ce qui a été surtout difficile, c'était d'avoir commencé mon repérage en octobre 2006, et le rapport du Bruguière intervient en novembre. Et moi, j'avais déposé ma demande d'autorisation de tournage au Rwanda une semaine avant le rapport Bruguière. Donc je me suis dit, c'est sympa, là, j'ai à peu près 2 ans et demi de travail qui tombent à l'eau, et je n'obtiendrai jamais mon autorisation de tournage.
Merci, monsieur Bruguière.
Donc oui, pas facile, surtout que la réaction rwandaise a été d'une extrême violence. Le Rwanda, c'est un pays qui est grand comme l'Île-de-France, qui est un pays, un des plus pauvres pays du monde. Ce pays-là, il a donné 24 heures à l'ambassadeur français pour quitter le territoire. Il a donné 72 heures à tous les intérêts français pour quitter. Donc ça prouve quand même le sentiment de puissance que peut avoir Paul Kagame. Il n'a pas du tout ménagé les relations diplomatiques à ce moment-là. Donc moi, je me suis dit, c'est mal barré. Et il y avait des manifestations anti-françaises dans les rues, donc ça n'arrangeait rien. Mais comme souvent, en fait, vous pouvez bénéficier d'une petite fenêtre de tir, parce qu'ils ne peuvent pas être contre tout. Ils ne peuvent pas être contre tous les Français. Il faut envoyer des gages que ce n'est pas contre les Français qu'on en a, c'est contre le juge Bruguière. Et donc, moi, j'ai joué sur cette corde-là. Et puis, je suis allé pendant plusieurs jours faire le guet à 7 heures du matin devant le ministre de la Culture, la Jeunesse et des Sports. Et puis, quand il débarquait, quand il sortait de sa voiture, je lui prenais le grappin dessus, je lui tendais ma carte et je lui disais, voilà, j'attends toujours une réponse à ma demande d'autorisation. Et puis, à force de témérité, il a été obligé de consulter ses services. Il a été obligé de m'envoyer les services secrets qui ont fait une enquête sur moi, en me demandant, etc. Et puis, miraculeusement, ils ont dû trouver que j'étais vraiment pas inquiétant ni un espion français. Et puis, ils m'ont délivré cette autorisation. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois dans ces pays-là, quand vous êtes légitimé par le pouvoir, après, tout vous est possible. C'est-à-dire que moi, une fois que j'ai obtenu cette autorisation, j'ai pu après obtenir l'autorisation de filmer en prison, j'ai pu obtenir l'autorisation de Gachacha. Ça ne veut pas dire qu'on m'a à chaque fois ouvert toutes les portes, mais d'une certaine manière, j'avais l'aval principal.
D'accord, merci beaucoup Christophe Gargo. Je vous invite à aller voir ce film d'Arusha Arusha. Il sera projeté demain à 19h30 au CRDP. Merci beaucoup aux réalisateurs d'avoir accepté l'invitation sur ce plateau. Merci aux chroniqueurs et à la technique. Quelques rendez-vous à vous annoncer très rapidement avant de vous quitter. Sur les ondes de la Grenouille, ce soir à 21h, vous pourrez entendre « Retour à la Terre » de Bénédicte Dirix et Fabrice Cada, un documentaire sonore sur les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne qui regroupe des consommateurs et des petits paysans aux modes de production et de distribution alternatifs. Demain à 18h, le magazine en direct du FID sera animé par Xavier Thomas et portera sur l'écran parallèle Zanzibar et sur le film de Michael Dacheux intitulé « Commune Présence ». Vous pouvez retrouver la programmation du FID du Festival donc du International du Documentaire sur le site fidmarseille.org et toutes les émissions de Radio Grenouille sur le FID sont en ligne sur www.grenouille888.org. Bonne soirée à tous.
With TV, you can't even think of something different. With
movie, da un po' di tempo sento dentro di me una strana agitazione. Si sceglie prima che chi è lì? Chi è lì? Buon?
Per fortuna
di chi?
Chi è che bin mi tamni? Poi si sono buoni.